Bonjour à toutes et à tous, installez-vous, c'est l'heure de votre thérapie pop. Chers amis, nous sommes ravis de vous retrouver pour une nouvelle émission de Thérapie Pop, l'émission qui explore avec vous la musique contemporaine des années 50 à demain. Comme à l'accoutumée, c'est de Gauthier que je serai accompagné pour la thérapie de cette semaine. Salut Gauthier.
Oui, salut mon cher Théo.
Je vous rappelle pour les petits nouveaux qui nous rejoignent que Thérapie Pop cette saison, c'est un nouveau format raccourci pour plus d'efficacité et d'accessibilité. C'est donc en 12 minutes que nous allons explorer un album dont nous fêtons les 50 ans et nous allons traverser l'Atlantique pour partir à la rencontre de Bruce Springsteen et découvrir son troisième album Born to Run. En effet, rien de mieux que Springsteen pour découvrir l'Amérique, la vraie. Il ne se contente pas de la raconter, il la hurle, et dans cet album, il la fuit. C'est son troisième album, mais c'est le premier qui va réellement rencontrer son public et faire exploser sa carrière. Born to Run, c'est une chanson, c'est un album, mais c'est également un mythe. Et je me tourne désormais vers toi, mon cher Gauthier, afin que tu nous dévoiles un petit peu le contexte dans lequel cet album a été écrit et composé.
Alors écoute, mon cher Théo, tu en parles très très bien. Ce cher Bruce Springsteen, à l'époque, à 25 ans, il sort de deux premiers albums. Alors je suis en train de me les chercher, c'est Greetings for Asbury Park et The Wild, The Innocent and The E Street Shuffle. Mm-hmm. Merci Bruce de prendre des titres aussi courts. C'est Born to Run, c'était plus commercial, je pense. Indubitablement. Il sort donc de deux premiers albums, tu l'as dit, qui ont reçu des critiques favorables. C'est un artiste qui est reconnu, mais dont les ventes sont malheureusement extrêmement modestes pour lui à l'époque. Et il sent, il perçoit que peut-être pour lui, Born to Run, c'est un peu la dernière chance pour s'imposer auprès de sa maison de disques comme un artiste un peu bankable. Donc, Born to Run, ça s'ouvre avec une ambition absolument folle. Et je cite The Boss, mon cher Théo, puisqu'on le surnomme comme ça à l'époque. Il dit « I want to make the greatest rock record ever made. » En gros, je veux faire l'album, le plus grand album de rock jamais fait, un tout petit défi, hein,
ouais,
en somme.
Sacré objectif.
Oui, sacré. Il le dira aussi, il veut un son à la fois dense comme celui de Phil Spector et de son Wall of Sound qu'il avait expérimenté avec la Motown. Il veut une écriture aussi fine que celle de Bob Dylan et une énergie rock'n'roll, celle des années 50. C'est assez compliqué à
fusionner. Tout un programme.
Oui, c'est assez compliqué. Parce que déjà, rien que Dylan, produit par Phil Spector, je ne sais pas. Mais il va y arriver, notre cher Bruce. Parce que,
et tout ça avec le rock des années 50.
Oui, parce que faut pas faire simple quand on peut faire compliqué.
Et je crois que son studio va devenir une résidence secondaire.
Ça va être sa deuxième maison. Il va enregistrer au Record Plant à New York dans des sessions absolument interminable, puisque parfois on enregistre pendant plus de 20 heures d'affilée avec des musiciens qui doivent dormir sur place, bien évidemment, mon cher Théo,
ouais.
Parce que quand tu enregistres pendant 20 heures, tu vas pas rentrer revoir Bobonne.
Dormir 4 heures.
non, ça sert à rien. J'ose même pas savoir à quoi ils ont tourné.
Juste une petite citation d'un grand monsieur quant au potentiel de Bruce Springsteen dans la musique de ces années 70, Gauthier.
Ouais, c'est John Landau qui est un critique musical qui va devenir manager et producteur de Bruce Springsteen s'il avait senti le fleuron. Il dira, à l'époque où Bruce Springsteen enregistre Born to Run, I saw rock and roll future and his name is Bruce Springsteen. Putain Théo, je suis très anglais aujourd'hui.
Oui.
En gros, ça veut dire j'ai vu le futur du rock and roll et il s'appelle Bruce Springsteen. Cette phrase qui est publiée dans le journal The Real Paper en 1974 deviendra quasiment une prophétie quand on voit ce que l'album deviendra plus tard.
Et même le monsieur.
Oui,
il s'est vraiment pas planté,
The Boss.
Exactement. T'as quelques infos un petit peu techniques, mais nécessaires quant à l'enregistrement de ce disque en lui-même.
Oui, parce que c'est consubstantiel de la démarche de Bruce Springsteen pour cet album. Il veut un son rock, on l'a dit, des années 50. Il refuse, par exemple, d'enregistrer ses voix avec un casque, comme ça se fait usuellement. Il enregistre directement, quasiment devant les baffles, quoi, pour sentir, je le cite, la musique comme s'il était dans plein live.
Un peu de réverb, non, quand même.
Oui, c'est démerdé. Ce qui complique extraordinairement le travail de l'ingénieur du son, bien évidemment, mon cher Théo, à croire que tu as bossé dans des studios avant de travailler chez Radio Présence. Un drôle de choix de carrière. Lors des premières sessions aussi d'enregistrement, alors Born to Run sera enregistré dans un tempo plus lent. Et en fait, on décidera, notamment sous l'impulsion d'un dénommé Steve Van Zandt, d'accélérer un peu tout ça pour donner justement cette patte d'urgence très rock caractéristique de cette musique. Voilà, encore une fois, il faut faire du rock des années 50. C'est sympa Bob Dylan, mais ce n'est pas tout le projet.
Tout ça avec le Wall of Sound.
Absolument.
Il est temps de s'écouter un petit peu de musique, Gauthier, et du coup on va s'écouter Born to Run.
C'est original.
Allez, Bruce Springsteen. I se finir quand même, c'était donc Born to Run de Bruce Springsteen. Il est maintenant temps pour toi Gauthier de nous livrer quelques anecdotes dont tu as le secret sur cet album, à commencer par sa construction.
Oui, alors je le dis juste parce que tu l'as mentionné dans ton édito Théo, mais effectivement l'album s'ouvre avec Thunder Road et se termine avec Jungle Land, qui sont deux chansons très célèbres de Bruce Springsteen et qui vont, comme tout bon artiste américain, vendre l'évasion, le rêve, la perdition, ce grand rêve américain. Ouais. Voilà, ça c'est sur la thématique entre guillemets de l'album.
Grand territoire.
Oui, après revenons, parce qu'encore une fois c'est ça qui est très amusant dans cet album et de voir comme qu'un artiste décide de se foutre le cul par terre, il y arrive. Bruce Springsteen est complètement obsessionnel au moment où il enregistre cet album. Il y a certaines pistes qui vont être enregistrées plus de 100 fois, ce qui est quand même, à mon avis, assez rébarbatif.
C'est beaucoup.
Oui, oui, et qui seront mixées une dizaine de fois. Bruce Springsteen dira, j'ai mis tout ce que j'avais dans certains enregistrements. Effectivement, mon gars, 100 fois, je pense que tes musiciens de studio ne te remercient pas, et je comprends pas comment le mec ne se lasse pas de sa propre compo. Mais...
Justement, parlons des musiciens de studio, je crois qu'au niveau instrument, ces derniers n'ont pas été ménagés, Gauthier.
Ouais, alors il y a une anecdote qui est assez marrante avec Clarence Clemons, qui est le saxophoniste sur l'album, doublement marrante parce qu'en fait, bon, ce pauvre gars va péter des hanches de saxophone. Alors, la hanche, c'est la petite pièce, oui, qu'on met dans laquelle on souffle et qui est une pièce un peu fragile, mais voilà, qui a le vibrato, entre guillemets, qui permet de générer le son. Notamment sur la seule unique chanson Jungle Land, à force d'enregistrer le solo de cette chanson, il pètera donc une partie de son saxophone dessus. Et la petite anecdote avec ce Clarence Clemons se poursuit puisqu'il sera mal payé. La pochette de Born to Run est éminemment célèbre. On y voit un Bruce Springsteen appuyé et sur, ouais, quelque chose, et ben c'est ce bon Clarence Clemons sur lequel il est appuyé, mais on ne le voit pas. Je crois que tu le vois quand tu ouvres le vinyle, notamment, oui, ou la pochette,
si,
ou la,
vois,
voilà,
ouais,
ou la pochette, mais pas sur la jaquette quand, oui, t'achètes, ouais, l'album à proprement parler. Donc Bruce est appuyé sur son saxophoniste qu'il a littéralement poncé pendant les enregistrements. Voilà.
Et en plus, l'équipe a passé 3 semaines sur Jungle Land pour le mixage final.
Ah oui, c'était une purge, je crois. Ouais. Vraiment.
T'as une autre anecdote rapidement
Je n'ai que ça, mon cher Théo. Je suis une machine à anecdotes. Les claviers de Backstreet ont parlé de cette volonté de revenir à un son des années un peu 50. Alors, Bruce, je pense que tu n'as pas beaucoup écouté du rock des années 50 parce que quand même ton truc est bien plus lourd que du Jerry Lee Lewis.
Ouais, Chuck Berry.
Ouais, voilà. Mais bon, imaginons, pourquoi pas. Tu as l'idée, c'est ce qui compte. On va, pour enregistrer Backstreet, aller choper un vieux piano droit qui se trouve à ce moment-là dans le studio et qui est désaccordé. On va se dire, bah vas-y, on le garde désaccordé pour garder aussi un peu ce grain particulier, cet esprit éminemment rock. Une dernière anecdote éventuellement, Théo ?
Très rapide.
Et ben c'est Jungle Land. 3 semaines à passer sur le mixage final, ouais, ce qui est absolument invraisemblable quand on sait que certains albums ont été enregistrés en 4 jours. Elle a 3 semaines que sur unique chanson, rien que pour équilibrer le son du saxophone avec celui des cordes.
Ce satané saxophone.
Voilà, sur lequel ce pauvre Clarence se pète la hanche sans hache.
Ouais. L'émission touche à sa fin, chers auditeurs. Vous l'aurez compris, Born to Run est le premier album mythique de Bruce Springsteen, nous ouvrant les portes de son Amérique qu'il veut fuir mais sans savoir où aller. Nous aurons le plaisir de vous retrouver dès la semaine prochaine pour une nouvelle thérapie. On restera aux États-Unis, mais on ira en 2002 à la rencontre des Queens of Stone Age. Je vous rappelle enfin que cette émission est disponible en réécoute sur le site de Radio Présence et des radios partenaires, ainsi que sur toutes les plateformes de podcast. Une très belle semaine à vous, une très belle semaine à toi Gauthier.
Salut Théo.
Salut.